Vous venez de parler de possibilités à l'horizon de hausse modérée des taux d'intérêt. Il y a la même rumeur, entre guillemets, qui court aux États-Unis actuellement. Est-ce que vous faites un lien direct avec justement une hausse possible, lente, mais quand même présente, là, des taux d'intérêt aux États-Unis, potentiellement, et ce qui pourrait arriver tout de suite après au Canada?
Dans un certain sens, oui. Par contre, je pense que à ce niveau-là, j'ai toujours une petite réponse que en tout cas pour ma perception est un peu différente de ce qu'on entend habituellement dans les discussions. C'est-à-dire que pour moi, il y a une chose, ce que la Banque du Canada fait est différent de ce que les entreprises voient. Donc, par exemple, on a vu en 2015, comme je le disais, une baisse de la banque, du taux d'intérêt de la Banque du Canada au début 2015. Vers le milieu 2015. Mais si vous regardez les coûts d'emprunt, c'est-à-dire le taux d'intérêt auquel les entreprises agricoles font face, offert par les institutions financières, et si on fait la moyenne, et puis ces données-là sont les données privilégiées là, qui viennent de l'FAC, c'est les données qui sont disponibles, qui sont récoltées par la Banque du Canada, qui sont publiées sur leur site Web. Mais si vous regardez la moyenne des taux d'intérêt auxquels les entreprises font face, dans la deuxième moitié de 2015, spécialement dans les 3 derniers mois de 2015, on a vu les coûts d'emprunt augmenter. Pourquoi? Ben, même si le taux d'intérêt de la Banque du Canada est resté stable, bien parce que les conditions sur le marché changent. Il y a un ralentissement, comme vous le savez, un ralentissement économique au Canada. Ça implique plus de risques dans l'économie. Quand il y a plus de risques, les marges comme liées au taux d'intérêt des institutions financières augmentent, etc. Donc, même si la Banque du Canada ne bouge pas son taux d'intérêt directeur, ça ne veut pas dire que les coûts d'emprunt n'augmentent pas, première des choses. Et effectivement, je ne serais pas surpris que vers la fin 2016, on voit une légère augmentation des coûts d'emprunt parce que, comme vous le disiez, aux États-Unis, on risque d'être dans cette situation-là et notre marché ne veut pas être beaucoup lié à celui des États-Unis. Par contre, il faut comprendre aussi que si on voit effectivement des coûts d'emprunt qui sont un peu plus élevés, ça va être quand même assez limité. C'est ce qu'on parlera pas là, on parlera même pas de 100 points de base de 1%, on va parler de peut-être 25 points de base, un quart de pourcent. Donc, ça reste quand même très, très, très limité. Mais effectivement, puis pour moi, quand je le mentionne, c'est surtout un phénomène de gestion de risque, c'est-à-dire que les entreprises agricoles soient capables de gérer leurs dettes, de faire face à leurs obligations, puis non pas juste de regarder, voir exactement quelles sont les données financières aujourd'hui auxquelles je fais face, mais bien aussi de regarder certaines possibilités, de dire, bon, mais il n'y a personne qui peut prédire avec justesse quels vont être les taux d'intérêt dans 1 an, dans 2 ans. Quels vont être les prix sur les marchés dans les 6 prochains mois, dans la prochaine année. Donc, pour moi, il est important, d'un point de vue gestion de risque, de s'assurer que mon entreprise peut passer à travers certaines situations qui sont peut-être moins favorables que présentement. Donc, de ce niveau-là, oui, effectivement, il y a une certaine corrélation avec les États-Unis, mais je le dis surtout dans l'optique d'une gestion de risque, d'un plan de gestion de risque qui doit être finalement, qui devrait être aussi commun qu'un plan de mise en marché de toutes les entreprises. En production végétale, même en production animale aussi, ils vont avoir rentré dans l'hypermarché. Bon, ben, est-ce qu'on a un plan de gestion de risque aussi? Je pense que c'est une chose à laquelle les entreprises doivent réfléchir.
Vous parliez de l'Ontario tout à l'heure qui a un pourcentage d'augmentation du prix des terres de 2 points moins élevé que celui du Québec. Comment ça s'explique dans un contexte où on dit toujours que les deux provinces où les productions se ressemblent le plus sont bien le Québec et l'Ontario?
Absolument, un point de vue végétal, aussi animal, même dans un certain sens. Je dirais qu'il y a un phénomène aussi qui est difficile à mesurer on rapporte des résultats qui sont liés à une année spécifique, comme présentement 2015. Si on remonte un peu plus loin, si on remonte 3, 4 ans plus loin, bien, on va voir que l'augmentation en Ontario a été plus rapide, si on remonte à 3 ans, que celle qu'on a observée au Québec. Donc, il y a probablement un phénomène de. Le mot rattrapage semble dire qu'on doit absolument rattraper, voire une augmentation, mais il y a certainement un phénomène d'égalisation, si vous voulez, là, en fonction des rendements, bien sûr, parce que, bon, les rendements ne sont pas les mêmes dans le centre du Québec versus le sud-ouest Ontario, mais d'après moi, il y a un phénomène d'égalisation, là, toutes choses étant égales par ailleurs, du point de vue où on voit peut-être un certain rattrapage au niveau de la valeur des terres agricoles dans une province comme le Québec, qui a peut-être été augmentée un peu moins vite que ce qu'on avait vu auparavant en Ontario. Les augmentations en Ontario, il y a quelques années, ont été assez significatives, plus significatives que l'on l'avait vu au Québec, même si au Québec, il faut l'admettre aussi, ça avait été assez important. Donc, je pense que ce phénomène-là, je pense, qui est à noter, là, du point de vue Ontario versus Québec.
Peut-être un petit mot, M. Gervais, sur la corrélation avec la baisse du prix du pétrole. Le lien est marqué aussi entre le pétrole et les valeurs des terres?
Et oui et non. Et laissez-moi vous expliquer, parce que brièvement, on peut s'attendre à ce qu'effectivement, si on a une faiblesse du côté des revenus liés au marché du pétrole, on va avoir une plus de faiblesse en termes de richesse, et donc ça pourrait causer un peu plus de faiblesse au niveau de la demande agricole dans une province comme l'Alberta. Alors qu'on voit pour l'Alberta, le taux de croissance, lui, en 2015, a augmenté par rapport à ce qu'il était en 2014. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que, oui, possiblement, la faiblesse du marché du pétrole a un impact. Et en fait, on le voit dans certains terres repères qu'on utilise dans notre méthodologie. On voit que la demande a été peut-être plus faible dans certaines régions très spécifiques. Mais cet effet-là a été, si vous voulez, totalement contrebalancé par la force des recettes agricoles, des recettes en grande culture dans la province d'Alberta, pour plusieurs raisons. On a un marché du blé plus fort que finalement auquel on s'attendait au début de 2015. On a eu des cultures spéciales, donc du milieu, etc., qui ont fait bonne figure. Donc, règle générale, le canola aussi a été plus profitable que ce qu'on anticipait en 2015. Donc, règle générale, les recettes ont été plus fortes. Et ça a probablement masqué, si vous voulez, l'effet du marché du pétrole sur le marché des terres agricoles.